Et justement, par rapport à la fête des mères, j'avais vraiment, pendant la louange, j'avais cette impression que Dieu était là en tant que son côté maternel avec El Shaddai. On a chanté El Shaddai et je sentais ce nom de Dieu qui parlait très fort aujourd'hui en particulier. Dieu, El Shaddai, parce que je ne sais pas si vous savez, mais El Shaddai, c'est Dieu nourricier, c'est le Dieu avec des mamelles. Alors c'est sûr que c'est un peu spécial dans notre culture, on n'aime pas trop, mais c'est le côté maternel de Dieu qui prend soin et qui allaite, qui nourrit. Donc oui, on va parler de nourriture, mais je pense que c'est Dieu qui veut nous nourrir et le côté maternel de Dieu pour la fête des mères, c'est pas mal quand même. Donc c'est la fête des mères, mais c'est pas la fête des stéréotypes, hein, comme on a un Dieu qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, il est au-delà de nos propres traditions et de nos propres représentations. Et je crois qu'aujourd'hui, il veut encore un petit peu faire du ménage dans nos représentations. Bon, ça c'est un petit peu mon dada, j'aime bien quand il faut détruire des forteresses de pensée. Donc oui, je vais prendre beaucoup de plaisir à ça. Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, oui. Alors en fait, dans une discussion avec Vito, pour ne pas le citer, suite à une discussion avec Vito, j'avais reçu le titre de ce message, parce que je venais d'en faire un, et j'avais parlé de justice et j'avais cité l'inscription de l'IVG dans la Constitution française qui avait eu lieu dans la semaine. Et en fait, en discutant avec Vito, il me rappelait qu'au départ, c'était pas fait pour être quelque chose de... c'était fait pour être un soin, entre guillemets. Il y a une loi qui a été faite pour éviter aux femmes d'être encore plus... exclu de la société, d'être encore plus victime. Et bien sûr, on connaît le point de départ de cette loi avec Simone Veil qui disait que ça devait être une exception. Malheureusement, ça n'est pas du tout resté. C'est devenu une catastrophe. Et il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Évidemment, je ne vais pas prendre le message là-dessus. Mais le principe, c'est que si on veut avoir un impact sur ce sujet-là en particulier, et je pense qu'on prendra un temps de prière par rapport à ça à la fin du message, il faut que nous, on puisse aussi voir la victime partout où elle est, et la femme qui choisit voilà, ce moyen de supprimer son enfant, en fait, ben, elle est elle-même victime. Elle subit des pressions et elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et pour ça, il y a en particulier à Annecy, je ne sais pas si vous connaissez Sandra Duby, qui a tout un ministère déjà pour enseigner sur les pertes de grossesse volontaires ou non, pour faire tout un travail de restauration et de guérison par rapport à ça. Et elle veut vraiment exercer la justice de Dieu dans ce domaine en particulier, qui n'est pas un domaine particulièrement simple. Et si vous avez des questions ou si vous avez justement si vous avez besoin de creuser le sujet, je vous encourage vraiment à aller consulter son site, Sandra Duby, ou le site du Gospel Center d'Annecy, où il y a vraiment beaucoup de matériel qui est à disposition justement pour travailler sur ce sujet et pour recevoir la guérison, puisqu'il y a vraiment besoin de guérison. Et donc, quand on discutait de ça avec Vito, j'avais dans ma tête œuvre de miséricorde. Et c'est comme si le Seigneur il me disait « va creuser ce sujet ». Je dis « ok, ça me plaît ». Donc j'ai reçu le titre, mais après, fallait travailler le reste. Et donc, on va parler d'œuvre aujourd'hui. Et d'œuvres qui sont les produits de la miséricorde. On a parlé de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, et c'est vraiment ça qui nous pousse, hein. C'est la miséricorde. Parce que Dieu nous a fait miséricorde, il nous a pardonné, et nous on peut être aussi des instruments de miséricorde, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a un grand héritage en France, et puis en Europe, je pense aussi, hein, de chrétiens authentiques qui ont mis en place des œuvres de miséricorde et qui sont encore et qui sont aujourd'hui des institutions dans notre pays, comme les écoles, les hôpitaux, tout le travail social qui est fait au départ, c'est une œuvre de foi. Donc j'ai découvert que sur Wikipédia, il y avait une page qui s'appelle « Œuvre de miséricorde ». Parce qu'en fait, j'ai découvert à ce moment-là, quand j'ai préparé le message, que c'était donc ça a été institué, bien sûr, par l'Église catholique, qui n'était pas encore l'Église catholique à cette époque, au Moyen-Âge, puisque la réforme est arrivée bien après. Mais les actions... Alors, je vous lis la page Wikipédia. « Les œuvres de miséricorde sont les actions bienfaisantes que chaque chrétien doit accomplir par amour pour Dieu et pour son prochain en s'efforçant de diminuer ses misères. » Donc, « miséricorde »,« miséré », ça veut dire « misère », c'est-à-dire « avoir pitié », »,« avoir compassion », et « corde », ça vient de « corps », »,« cordis », »,« le cœur ». Donc, ce sont des œuvres qui viennent du cœur. Et on va reparler du cœur. Et donc, c'est devenu, en fait, une institution. Il y a 14 œuvres de miséricorde qui sont recensées. Il y en a 7 qui relèvent du corps, donc les œuvres corporelles, et 7 qui relèvent de l'esprit, les œuvres spirituelles. Alors, pour les premières, ça, il n'y a pas trop de choses à dire, ça paraît très biblique. Les 6 premières œuvres de miséricorde corporelle sont énumérées par Jésus dans la parabole de l'Évangile sur le jour du jugement, c'est-à-dire en Matthieu 25. Nourrir la famée, Matthieu 25, 34 à 40, si tu veux. Je sais pas si c'est éteint. Donc nourrir la famée, abreuver la soiffée, accueillir l'étranger, vêtir la malheureuse, soigner les malades et visiter les prisonniers. La 7e, elle est apparue ensuite au Moyen-Âge, c'est ensevelir les morts. Bon, bref, ça c'est de la tradition. Et la suite, sur les œuvres de miséricorde spirituelle, c'est aussi de la tradition, ça a été énuméré par Thomas d'Aquin au 12e siècle, qui, et là c'est un petit peu plus... un peu plus sujet à caution, on va dire. Bon, conseiller ceux qui sont dans le doute, ça va. Enseigner les ignorants, ça va. Avertir les pécheurs, consoler les affligés, jusque-là, ça nous parle aussi d'Ésaïe 61. Pardonner les offenses, bon ça c'est Dieu qui sait le faire. Hein. Nous on pardonne bien sûr, mais apparemment c'est une œuvre de miséricorde de pardonner les offenses. Et 6e, ça m'a fait rire, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. C'est la 6e œuvre de miséricorde spirituelle. Et enfin, 7e œuvre, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Bon, pour les vivants, d'accord. Donc la miséricorde se diffuse au sein du christianisme à partir du XIIIe siècle et François d'Assise est l'un de ses propagateurs. Donc on voit, c'est une tradition. Hein. Bien sûr, elle est tirée de l'évangile, mais voilà, il y a aussi tout ce côté tradition et interprétation des évangiles par les pères de l'Église. Et on commence à appliquer cette notion aux pécheurs, mais aussi aux pauvres, aux pèlerins, aux malades, aux prisonniers. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu un certain nombre d'institutions qui sont nées, hein. La Maison Dieu par exemple, les hospices, et donc qui ont créé les hôpitaux en particulier. Et puis tout le travail pour les pauvres. On connaît hein, Saint-Vincent de Paul, etc. Vous avez plusieurs exemples comme ça. Mais ça vient en fait de là. Le point de départ, c'était cette institution des œuvres de miséricorde. Et donc, un nombre considérable d'hommes et de femmes s'y engagent pour tenter de remédier aux maux, M-A-U-X, de la société, de l'époque. Des particuliers, des autorités municipales fondent des hospices, des léproseries qui permettent d'y parvenir dans une certaine mesure tout en offrant aux fidèles l'occasion d'un perfectionnement spirituel. Donc on fait le lien entre apporter du réconfort et puis aussi apporter le salut. Donc ça je pense en soi c'est un bon héritage. Mais bien sûr, il y a la controverse des indulgences que vous connaissez peut-être. Certains courants de théologie catholique considéraient l'accomplissement des œuvres de miséricorde comme un moyen de réparer les fautes que l'on a commises. Et c'est là que ça commence à tirer un peu. Cette doctrine dite des indulgences a provoqué de nombreuses critiques et ça a conduit à la réforme. On sait que Luther s'est opposé du coup à cette conception du salut par les œuvres. Et donc les œuvres de miséricorde, quand on dit salut par les œuvres, c'est ces œuvres-là, c'est-à-dire qu'on faisait ces choses-là pour se racheter d'un péché personnel ou racheter un péché de la société. Et donc, ben, Luther, il s'est battu pour dire mais le salut, il est gratuit, on n'a pas besoin de racheter quoi que ce soit. Jésus a tout fait à la croix, on l'a encore proclamé pendant la Sainte Cène. Nous, on peut rien rajouter. Donc c'est important de se dire, ok, il y a quelque chose de bon et puis il y a quelque chose aussi qui a été perverti, donc on va aller nettoyer tout ça. Le pape François a remis les œuvres de miséricorde au goût du jour assez récemment, et il a rajouté, alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est l'Église catholique en général, qui a rajouté la sauvegarde de la création comme une nouvelle œuvre de miséricorde. Vous saviez pas ça, hein ? Moi non plus, je savais pas. À l'occasion de la deuxième journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre 2016, le pape François a proposé de considérer la sauvegarde de la création comme une œuvre de miséricorde, évoquant la sauvegarde de la maison commune, qui demande des simples gestes quotidiens, etc., pour rompre la logique de la violence, de l'exploitation et de l'égoïsme. Donc, nous, en tant que héritier de toute cette tradition, puisque bien sûr on est aussi héritier du protestantisme, hein. On s'est opposé à ce principe de l'indulgence, on a établi comme doctrine que le salut il est gratuit, il s'obtient par la foi. On a aussi cette volonté de faire du bien autour de nous et de s'investir dans la société, hein. Vous connaissez peut-être, ou j'espère, la profession de foi de notre réseau d'église qui veut s'investir dans la société. On a eu une parole prophétique sur les sept montagnes, l'église qui va et qui fait, qui rachète en fait ces sept montagnes de la société. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc la question, c'est avec quelle vision ? Parce que souvent, la plupart du temps, quand on fait quelque chose, on le fait à cause d'une vision qu'on a, consciente ou inconsciente. Donc c'est bien d'avoir les choses bien claires dans la tête pour savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait une école, pourquoi on s'investit dans l'éducation chrétienne, par exemple. C'est un exemple, mais il y a plein d'œuvres de miséricorde, bien sûr. Donc on va revisiter un petit peu ces œuvres de miséricorde. Et il peut y avoir des interférences aussi. Alors, je suis pas spécialiste du New Age, mais j'ai entendu que quand on veut bénir quelqu'un, on envoie des prières dans le cosmos, et puis ça fait un effet. Et on sait aussi que l'islam, c'est une religion d'œuvres, c'est-à-dire que ils sont pas sûrs de leur salut, ils font des œuvres des bonnes œuvres pour mériter en fait le paradis. Donc on a dans la société, sur Internet et sur Instagram, tout un tas de petites phrases comme ça qui peuvent nous faire penser à cette idée des œuvres qui peuvent nous sauver ou nous élever ou nous faire grandir, etc., etc. Donc c'est quand même, voilà, c'est une vision du monde qui est quand même transmise par notre société d'une manière ou d'une autre. Il faut être gentil, quoi. Il faut faire de bonnes œuvres. Bon, alors, est-ce que c'est biblique ? Ben oui, bien sûr. Mais alors attention, le fondement, hein, n'est-ce pas ? Donc on va reprendre Jacques, puisque vous connaissez son épître et c'est un thème central de son épître. On peut prendre à Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc là, Jacques, il nous encourage à être cohérent. On a vu que Jésus nous dit d'aller nourrir, d'aller abreuver, d'aller vêtir ceux qui n'ont rien. Donc il reprend en fait tout simplement les enseignements que Jésus a donnés. Luther a considéré que cette épître qu'il appelle épître de paille était contraire au salut par la foi seule. Mais bon, je vais pas réhabiliter Jacques, d'autres l'ont fait avant moi. Je pense pas que c'était ça son objectif. Son objectif, c'était, à mon avis, et selon les commentateurs, c'est de rester cohérent par rapport à la profession de foi qu'on a. Si on dit qu'on a la foi, si on dit qu'on est disciple de Jésus, ben, les œuvres suivent. C'est logique, en fait. Et ce qui est intéressant dans la lettre de Jacques, c'est qu'il va utiliser des mots qui sont de son époque et qui m'ont rappelé quelques cours de philosophie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on lit Jacques 2 en particulier, et qui dit à partir du verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je me suis dit « Mais c'est quoi ces faux raisonnements ?» Et quand on regarde un petit peu les mots, en fait, quand Jacques parle de mettre en pratique, il va utiliser un mot, gignomai poietes, c'est réaliser un ouvrage. Et poietes, c'est le mot qui a donné poète, qui a donné création. En fait, le mot poieo, le verbe poieo, ça signifie créer. Et il va aussi utiliser le mot ergon. Ergon, c'est ce qu'on retrouve dans ergonomie, c'est ce qui est en lien avec le travail, l'activité, l'action. Et moi, en bonne philosophe grecque dualiste, je me dis, mais pourquoi il utilise ces mots-là par rapport à des œuvres de foi? Il devrait plutôt utiliser des mots plus pragmatiques, comme praxis ou pragma. Praxis, vous comprenez, ça veut dire la pratique, et pragma, c'est ce qui a donné pragmatique, les choses concrètes. Et là, il utilise des mots qui sont presque un petit peu symboliques, ou en tout cas, dans notre compréhension des choses, un peu poétiques. Et en fait, ce sont des mots qui sont en fait très pratiques. Et si on regarde un petit peu, alors ça m'a fait penser à un cours de philosophie d'Aristote. Lui, il fait carrément la distinction entre poiesis et praxis. Je vais pas vous faire tout le cours. Je vais vous faire le résumé. C'est qu'il oppose les deux. Il oppose ce qu'on va produire et puis le travail qui est un plaisir. Ou qui n'est pas un travail, en fait. Parce que le travail, et donc c'est le poiesis, la poiesis, c'est en fait ce qui va... C'est pour les esclaves, quoi. C'est ce qui va produire quelque chose, qui va pouvoir être vendu, etc. C'est un produit. Et c'est pas bon, c'est pas pour le sage. Le sage, il est au-dessus de ça, il est dans les milieux éthérés de la contemplation philosophique, il ne produit rien. Ça, c'est les esclaves qui font ça. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de méfiance et même carrément de mépris pour tout ce qui est des choses de la terre et en particulier du travail. Et là, Jacques, il casse ça bien comme il faut. Et ça m'a fait plaisir, en fait, de voir ça. Parce qu'il va utiliser ces mots et il va redonner tout son sens et toute sa noblesse au travail dans le sens de dire c'est le résultat de la foi. C'est le résultat de nos croyances profondes, parce que quand il dit foi, c'est pistis, et c'est vraiment la conviction, c'est pas juste une croyance vague, c'est une ferme assurance. Et donc, notre activité, notre travail, notre entreprise, on peut vraiment traduire ergon comme ça, découle de notre ferme assurance en Dieu et de notre ferme conviction que ce qu'il a enseigné est juste. Et donc, ça nous encourage à être cohérents et à être un, d'une certaine manière. Il y a comme une unité, c'est le contraire du dualisme. On n'est pas divisé en deux, on n'est pas en train de dire tout ce qui est matériel, c'est mauvais, tout ce qui est spirituel, c'est bon. La lettre de Jacques, qui paraît de prime abord parfois un petit peu sèche, un petit peu rude, ben en fait, c'est ça. Il combat le dualisme qui est encore malheureusement présent à son époque et encore à la nôtre, hein, faut le dire. Hein. Donc, et ça, c'est intéressant de le voir juste par les mots qu'il utilise. Mais après, il développe évidemment toute son argumentation. Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc poietes ergon, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était, quel il était. » Donc, il ne faut pas être oublieux. une fois qu'on a reçu les enseignements de Jésus, il faut les mettre en pratique. Sinon, on n'a pas compris en fait l'enseignement. Parce que Jésus, il n'était pas divisé. Il n'était pas dualiste. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, les philosophes, ils aimaient écouter, ils aimaient entendre des enseignements. Mais là, on nous dit de ne pas être un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, ergon, en mettant en pratique, en se mettant à l'ouvrage, on pourrait même dire, celui-là sera heureux dans son activité. Et activité, encore une fois, c'est ici le mot, alors je recherche pour ne pas dire de bêtises, c'est poiétès, il me semble, je vais vérifier. Donc c'est vraiment, oui c'est ça, ce qui est en train d'être créé. Mais vraiment concrètement, c'est pas juste faire des trucs pour faire des trucs, c'est, il y a une production. Donc il y a une réconciliation dans ce passage de l'enseignement, de ce qu'on a entendu, de ce par quoi on a été nourri, et de ce qui sort de ça, c'est-à-dire les actes concrets. Ça va ensemble, c'est un. Et ça, c'est intéressant. Si quelqu'un croit être religieux, verset 26, sans tenir sa langue en bride, donc il y a aussi tout cet enseignement sur la langue, sur il y a plusieurs enseignements, plusieurs directives précises dans cette lettre. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, verset 27, vous connaissez peut-être ce verset, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc ça renvoie aussi aux œuvres de miséricorde dont on a parlé tout à l'heure. Donc, cette distinction entre praxis et poiesis, évidemment, elle n'existe pas pour Dieu. C'est seulement pour les philosophes qui se trompent par de faux raisonnements. La distinction entre ces deux mots et toutes les connotations qui en sont ensuite découlées dans notre représentation du travail manuel ou du travail productif. Bien sûr, ça n'a pas de cours dans le christianisme. Ça devrait pas avoir de cours dans notre christianisme. Pour les philosophes, c'est le travail de l'esclave. Mais vous avez entendu le message de mon cher mari. Nous sommes esclaves de Christ, et ça ne devrait pas être un problème, parce que c'est lui qui nous libère des autres esclavages et qui nous rend vraiment libres. Et bon, Aristote et les autres philosophes parlent de liberté. Le principe, justement, c'est que quand on est détaché du matériel, on est détaché du terrestre, on atteint la vraie liberté, entre guillemets. Et comme par hasard, Jacques parle justement de cette loi de liberté. Ça, il en parle au verset 25 du chapitre 2. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré... Non, c'est chapitre 1, pardon. Toujours chapitre 1. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté. Comme par hasard, il utilise ce mot, liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc c'est comme s'il confrontait les mensonges de cette culture grecque, qui est en vogue à son époque, évidemment, et qui l'est encore malheureusement à notre époque. Et il confronte en disant, mais c'est pas la vision du monde que le Seigneur nous a donnée. Et si on continue un petit peu la lecture de cette épître, quand on arrive au chapitre 2, on voit que donc notre action, notre œuvre, notre activité, elle doit découler du cœur. D'accord ? C'est pas juste faire pour faire, on n'est pas dans l'activisme. On peut se rappeler des paroles de Jésus qui dit à Marthe, mais pourquoi t'agites-tu ? En gros, pourquoi es-tu en train d'être dans l'activisme ? Le but, c'est pas de faire pour faire, mais c'est d'être d'abord comme Marie au pied de Jésus, c'est-à-dire au pied, c'est recevoir son enseignement, Le fait d'être au pied de Jésus, au pied d'un maître, ça veut dire écouter, ça veut dire recevoir l'enseignement et apprendre de lui. Et donc il faut d'abord se mettre au pied de Jésus comme Marie, et ensuite on peut se relever pour faire. J'imagine que Marie, elle n'est pas restée toute la journée à rien faire. C'était pas possible. Et Jésus, ben pareil, lui aussi, il n'était pas tout le temps en train d'enseigner. Il allait guérir, il allait passer du temps avec ses disciples. Il y a un temps pour recevoir l'enseignement et il y a un temps pour se lever et puis pour faire. Mais alors, le comment, c'est ça qui va tout changer. Et le comment, on peut le voir dans le verset 12 et le verset 13 du chapitre 2. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, on la retrouve, la loi de la liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Donc on voit que le principe, c'est que si on agit, si on parle, c'est par la miséricorde, c'est à travers ces deux par la miséricorde. Donc on va s'arrêter un petit peu sur ce mot. Qu'est-ce que c'est la miséricorde ? On voit qu'elle triomphe du jugement. Je vous rappelle, j'ai fait un message sur le jugement, sur le fait de juger. Juger, souvent, c'est condamner, hein, condamner avant même d'avoir essayé de discerner. Et Matthieu 23 nous rappelle « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger, les autres choses. Donc, on voit que c'est une instruction du Seigneur et que la miséricorde, c'est un peu notre moteur. Donc si on va voir dans le dictionnaire de l'Académie française, au XIIe siècle, pour désigner la compassion divine, on utilisait ce mot pour dire qu'en fait, c'est la miséricorde de Dieu qui est première pour les humains. Et ça désigne la compassion aussi que les hommes peuvent avoir les uns pour les autres. Donc, vertu qui porte les hommes à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. Donc, comme on voit la misère, on a envie de faire quelque chose pour la soulager. Donc pratiquer, exercer la miséricorde, etc., etc. Les œuvres de miséricorde, ce sont les bonnes œuvres qui visent à secourir le prochain. Par extension, disposition bienveillante qui incline à l'indulgence, qui pousse à épargner ceux que l'on devrait châtier et que l'on tient à sa merci. Donc ça devient synonyme de grâce, de pardon. Et dans le langage de la spiritualité chrétienne, donc ça c'est l'Académie française qui l'explique comme ça, la miséricorde divine, la bonté de Dieu, que Dieu manifeste pour ses créatures en leur accordant la rémission de leurs péchés. Donc le premier qui fait miséricorde, c'est Dieu, puisqu'il nous pardonne nos péchés. Donc c'est l'amour de Dieu en action. La bonté de Dieu en action pour nous, qui se réalise concrètement par le salut que Dieu envoie dans le monde par Jésus. Et Jacques nous dit aussi que comme le corps sans âme est mort, au verset 26 du chapitre 2, de même la foi sans les œuvres est morte. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle entre l'âme et le corps, entre la foi et les œuvres. On est appelé à être un, âme, corps, esprit. Et là, la foi et les œuvres, c'est pareil, c'est appelé à être un. C'est appelé à être cohérent, à découler, à être naturel. Donc, on est bien dans une disposition de cœur qui nous pousse à revoir nos motivations aussi, hein, à nous aligner sur les commandements du Seigneur. Je vous renvoie aussi au message sur Matthieu 5, la grâce rédemptive, la grâce transformative, elle est active, elle fait, elle agit, elle n'est pas passive. Et tout ça, ça sort de nos entrailles. On peut voir ça dans Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde, aux entrailles de compassion de notre Dieu. Il a des entrailles. Alors les entrailles, d'un point de vue purement physique, c'est les viscères, hein, c'est tout ce qui se trouve là. Et c'est symboliquement aussi, ou même physiquement, il y en a certains qui parlent de neurones, hein, dans les intestins, c'est un lieu d'émotion, un lieu d'affection. dans l'imaginaire aussi antique, c'était un lieu où peut sortir la colère ou la passion. C'est un lieu de sentiments, d'émotions. Et c'est un lieu profond. Et en hébreu, ça correspond au cœur. Le cœur de la personne, c'est son être intérieur, c'est son centre profond, c'est son être profond. Et le cœur, donc vous avez déjà certainement entendu, hein, c'est le siège de la volonté, le siège de l'affection, mais aussi le siège de tout ce qui est de la pensée. Et donc c'est pour ça qu'on a donc le verset qui nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là sortent les sources de la vie. C'est là où Dieu nous parle. Les entrailles, c'est là où on sent, quand nos entrailles sont remuées, on sent qu'il y a le Saint-Esprit qui agit, qui nous parle. C'est le lieu de vie du Saint-Esprit en nous. Et donc, si c'est le lieu du Saint-Esprit, c'est le lieu où il peut nous parler, où il peut nous motiver aussi, nous donner ses directives. Et c'est de là que sortent toutes nos actions. C'est de là que ça doit sortir. C'est pas de là. Ça doit remonter éventuellement, parce que c'est quand même, il faut faire des plans, il faut organiser, avoir une stratégie, mais ça part des entrailles, en fait. Le point de départ, c'est là. Donc, comment être un instrument de miséricorde, un instrument de justice pour notre monde? Je vous renvoie aux sept montagnes. On va pas faire une étude sur les sept montagnes parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous les cite juste rapidement. L'éducation, la famille, éduquer sur la vérité, hein, et pas sur les tendances du moment ou sur ce qui paraît être juste, qui est contraire à Dieu. Non, on veut fonder son éducation, sa vie de famille sur la parole. Les arts, faire du beau. Les arts, c'est l'adoration, en fait. Louer le Créateur et non pas la créature. L'économie, sur les bons fondements, comme on l'a vu, hein. L'abondance de Dieu et pas se servir soi-même. Le système social qui soutient les plus faibles, mais qui les responsabilise, qui les rend autonomes, qui les met debout, en fait, au lieu de les garder dans une sorte d'assistanat. La santé, au service du soin, de la personne, et non pas de l'argent, comme on peut le voir en ce moment. Les loisirs, c'est encore une autre montagne. La vie, et non pas l'esclavage, les jeux vidéo et compagnie, on savait de quoi je parle. Et enfin, septième montagne, la politique. Là aussi, on a besoin de responsables qui ont des bonnes valeurs et qui savent que, ils ont une grande responsabilité et que s'ils l'exercent bien, il y a tout un peuple qui va en bénéficier. Donc le but, à travers ces sept montagnes, c'est d'être des agents de rédemption. C'est pas simplement investir un lieu ou un domaine de la société pour dire « moi je sais, je vais vous montrer ce qu'on doit faire », mais c'est de venir, par la miséricorde, par l'action du Saint-Esprit en nous, apporter les solutions. Apporter les solutions dont le monde a besoin. Il sait plus, il a plus les repères. Nous, on a les repères parce qu'ils nous sont donnés de Dieu. Hein. C'est pas par notre propre intelligence, forcément. Hein. C'est Dieu qui parle à notre intelligence, c'est Dieu qui parle à nos cœurs. Et si on a cette miséricorde dans nos entrailles, on va apporter les solutions. Et on n'est pas là juste pour écouter et dire « oh, c'est pas bien ce qu'ils font ». Ça, tout le monde peut le faire. Hein. Donc voilà, le message de Christ, c'est un message d'action, c'est un message qui réconcilie l'enseignement avec la mise en pratique. C'est pas simplement être gavé et dire « ah oui, c'est bien, moi je sais, j'ai la vérité, et puis vous débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez pour survivre ». Quoi. Donc ça, c'est aussi notre vision au niveau du réseau Nouvelle Connexion. Hein. S'il y a une réhabilitation de l'esprit d'entreprise, de l'esprit d'action, on n'est pas dans l'activisme, on ne fait pas pour faire. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas être des Martes. On va vraiment d'abord recevoir les instructions du Seigneur et apporter sa vie, ses entrailles à lui dans ce monde. Et je voudrais finir avec une petite relecture aussi de Proverbe 31. Alors ça tombe bien, c'est la fête des mères. Et comme je dis, c'est pas la fête des stéréotypes, parce que si vous regardez Proverbe 31, elle est loin d'être stéréotypée, cette femme vertueuse. Proverbe 31, donc la femme vertueuse, qui peut être traduit par femme vaillante. Le mot vertueuse, il a été juste un petit peu accommodé pour dire que bon, mais en fait c'est un terme militaire, hein, c'est le terme qui est utilisé pour les vaillants hommes de David. Donc voilà, la femme vertueuse, c'est en fait la femme vaillante, la femme qui combat. On aime ça, nous. Hein. Donc c'est le même mot. Hein. Donc ce qui m'a parlé dans cette relecture, en fait, je sais pas comment j'ai eu l'idée, mais en fait le Seigneur m'a parlé de cette épouse parfaite. Et puis d'un coup, ça a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais est-ce que c'est pas une image de l'Église, cette femme vaillante? Et puis j'ai relu le proverbe et je me dis, oh, mais ça marche en fait. Et en fait, c'est trop beau. Et bon, il y a beaucoup d'études sur Proverbe 31. On a dit beaucoup de choses. Bien sûr, ça fait référence aussi aux activités des femmes de l'Antiquité de cette époque. Sur voilà, il y a tout un contexte qu'on peut pas occulter. Mais le Seigneur, il n'est pas limité par le contexte, par les contextes en général. On peut toujours relire sa parole en plusieurs, sur plusieurs étages. Et bien sûr, on peut dire à son fils, quand on en a, ou aux fils qui sont autour d'eux, cherche une femme qui a ces caractéristiques-là, parce que au lieu de regarder l'apparence et la séduction, va voir si elle est vraiment vertueuse et cherche ses œuvres. Donc, on voit qu'en fait, ce proverbe, il n'est pas destiné à donner un modèle aux femmes. Hein, c'est en fait une instruction d'une mère à son fils pour qu'il aille chercher la femme qui sera la bonne épouse pour lui. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit, n'est-ce pas ? Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Retrouve les entrailles. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. On sait que Salomon, il a été justement perdu à cause des femmes. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc ça nous fait penser aussi aux œuvres de miséricorde, d'apporter du soulagement, d'apporter quelque chose à celui qui est dans la pauvreté ou dans l'amertume ou dans la maladie. Ouvre ta bouche pour le muet, là aussi, parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. On est vraiment dans le même thème là. Et ensuite on arrive à la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du vin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc il y a plusieurs éléments dans ce passage qu'on peut facilement mettre en lien avec le travail entre guillemets de l'Église, la mission que Dieu donne à son Église. Je vais reprendre mes notes si je les trouve. Voilà. Donc le principe, c'est que ça déborde des entrailles. Hein, vous avez bien compris, on est toujours sur le même topo. Voilà. Donc, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est les habits de fin lin, puisque les habits de fin lin, ce sont les habits de justice, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle aussi le principe de l'ergone, qui est un ouvrage, en fait, presque on pourrait dire un tissage. Et nous, ça nous parle le tissage, avec la maison du tissage qui nous attend. Donc, déjà, elle est vaillante, mais en plus, elle fabrique, elle produit des choses. Elle fait venir son pain de loin, ça nous fait penser aussi à la parole, qui va loin et qui revient, des nations, l'évangile qui va jusqu'aux nations. Elle se lève quand il fait encore nuit, elle va donner à manger, elle passe son temps à vouloir bénir. Ça nous parle des enseignements, de l'instruction qui est donnée dans l'Église. Elle achète un champ, donc elle fait aussi, elle va cultiver. Elle est dans la culture, elle n'est pas à l'écart de la culture. Alors, on parle de ceinture à ses reins, ça nous parle de la vérité. On parle de ses épaules, ça nous parle du gouvernement. On parle du commerce. Elle fait du commerce et c'est bon. C'est pas quelque chose de méprisable, mais parce que c'est fait avec intégrité et avec bonté. Sa lampe ne s'éteint pas, ça nous fait penser évidemment à la lampe des jeunes vierges sages. On parle de quenouilles, de fuseaux, bien sûr ça fait penser à l'activité des femmes qui faisaient du tissage, hein. C'était leur activité principale dans ce contexte-là. Mais ça nous parle évidemment à nous aussi du tissage des relations, du tissage des œuvres bonnes, des œuvres préparées d'avance, les œuvres pour les pauvres aussi. La neige, le froid ne va pas la perturber, tout ce qui est de la mort, hein. Le froid, la neige, c'est ce qui parle de la mort, ne la perturbe pas, le séjour des morts ne prévaut pas contre elle. L'écarlate, le cramoisi, ça nous parle du sang de Jésus, bien sûr, qui nous protège. Elle fait des couvertures, alors bon, les couvertures, on peut interpréter ça un peu comme on veut, mais ça parle de plusieurs choses. Moi, ça me parle de couverture spirituelle aussi, Elle apporte en fait cette révélation de la couverture apostolique et prophétique. Ça, c'est comme ça que je l'interprète. Et le fin lin, le pourpre, évidemment, ça parle de la justice et de la royauté de Jésus. Quand on parle de porte, ça parle de lieu de gouvernement, ça parle de lieu d'autorité. C'est le lieu de Jésus qui est aux portes, qui gouverne, qui est sur son trône, peu importe ce qu'on peut voir dans les médias, ce qu'on peut voir dans le monde. Il est là et il gouverne, il est toujours sur son trône, il n'est pas en dehors. Et il n'est pas non plus indifférent. On peut continuer comme ça longtemps, mais voilà, il y a plusieurs éléments comme ça, les tuniques, les ceintures, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut offrir au monde. Le vêtement qui désigne la force, la dignité. Elle est joyeuse, elle a confiance en l'avenir, elle se rit de l'avenir, elle n'est pas dépressive. Elle n'a pas une vision négative, elle est renouvelée dans son espérance. Elle enseigne avec sagesse, avec compassion. Elle surveille les allées et venues dans sa maison, elle a du discernement, elle surveille. Elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas négligente. Et elle a des fils. Elle a des fils. Elle n'est pas stérile, elle a des beaux fruits. Et son mari la loue, il y a des louanges pour ses œuvres. Donc c'est un passage que je vous invite à relire pour vous et à méditer. C'est une prophétie qui est aussi peut-être encore à réaliser hein, de se lever comme cette femme vertueuse, cette femme vaillante, cette femme qui combat et qui combat pour les œuvres de miséricorde, pour combattre contre ce dualisme, cette séparation, pour qu'il y ait moins d'indifférence, qu'il y ait moins de résignation, moins de passivité. Et que le Seigneur puisse nous parler en fait sur le comment. Ça, la créativité, elle est infinie. Le comment, il est infini. Mais qu'on sache le pourquoi. Que ce soit bien clair dans nos entrailles du pourquoi. Donc je vais m'arrêter là. On va prendre un petit temps de prière. Pour que simplement le Saint-Esprit puisse nous parler à nous directement, individuellement, et puis peut-être aussi collectivement, si jamais quelqu'un reçoit une parole, n'hésitez pas. Pour que vraiment ce modèle de la femme vertueuse, la femme vaillante qui tisse et qui a une action dans le monde, il puisse nous interpeller sur notre action dans le monde aussi et le pourquoi. D'où ça part en fait, de quelles sont nos motivations intérieures.